c'est les grandes gueules.
À vous de choisir.
C'est l'heure du à vous de choisir. Vous aviez le choix entre deux sujets de discussion aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On vous a proposé ça sur Twitter, sur internet rmc.fr. L'ouverture d'une enquête contre Noël Le Graët à la tête de la Fédération Française de Football, ou bien la France qui est en panne de natalité. Vous voulez qu'on parle justement démographie avec cette étude de l'INSEE. Alors, que dit cette étude? Au 1er janvier, la France comptait 68 millions d'habitants, ça fait 0,3% de plus qu'en 2022. Mais avec 723 000 naissances en 2022, on a 19 000 naissances de moins qu'en 2021, et ça s'explique.
Oui, si aujourd'hui la population française continue de progresser, c'est grâce à l'immigration, c'est pas grâce à la natalité, puisque avec 19 000 bébés de moins que l'année précédente, on ne peut pas assurer le renouvellement de la génération. Il faudrait 45 000, c'est le nombre de naissances nécessaires en plus par an, pour assurer le renouvellement de la génération. La France reste néanmoins le pays le plus fécond de l'Union européenne. Donc quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, finalement on se rassure. Mais c'est un problème. Par exemple, l'Italie, c'est devenu le pays le plus vieux du monde. Voilà. Oui. Il y a plus d'enfants. En Allemagne non plus. Donc c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils vont venir des immigrés pour remplacer les Allemands qui ne naissent pas. Alors il y a pas 50 000 solutions. Soit on met des mesures de soutien à la natalité. Ces dernières années, on a plutôt fait le contraire. On a réduit le quotient familial. On a réduit les allocs. Alors que la France a une spécificité sur beaucoup d'autres pays. C'est l'accueil de la petite enfance, les crèches, mais aussi l'école maternelle qui est obligatoire. Il y a beaucoup de pays où l'école maternelle n'est pas obligatoire. J'ai entendu monsieur Attal, le bébé du gouvernement, dire que ils allaient mettre le paquet sur le service public de la petite enfance. Ils veulent notamment un droit opposable à avoir une place de garde pour leur enfant. Les familles auraient ce droit opposable. Bon, je ne sais pas si c'est efficace. Alors, est-ce que vous désolez du fait que aujourd'hui, et peut-être quelles sont les raisons de cette baisse de la natalité? Comment vous l'expliquez?
Alors, l'INSEE, la conjoncture économique a joué un rôle important. Avoir des enfants, c'est bien. Voilà ce que dit l'INSEE. Mais bien les éduquer, leur assurer un avenir adéquat, c'est beaucoup plus important. Voilà. Alors, est-ce que ça joue?
Il y a beaucoup d'éléments qui nous interrogent, hein, parce que quand on parle des difficultés d'élever les enfants, le nombre de familles monoparentales, mais qui quand même, évidemment, ont des enfants, les femmes ont quand même des enfants à éduquer, c'est une vraie problématique dans ce pays. Et quand tu parlais tout à l'heure des crèches également, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en parallèle. Si on veut plus d'enfants, il faut plus de crèches. Et quand on sait qu'on manque de crèches dans le rural et ailleurs, c'est une vraie question. Moi, je pense que, encore une fois, notre pays est en mal et on a besoin, puisque tout à l'heure on parlait des retraites, de la réforme des retraites, ben d'avoir aussi des jeunes qui arrivent pour qu'il y en ait de plus en plus qui bossent, car on sait qu'on a de plus en plus de retraités. Donc il va falloir qu'il y ait une jeune génération qui se mette en marche et que.
Il faut une vraie politique de natalité.
Avance alors. Avec efficacité. C'est un vrai sujet, quoi.
Barbara.
Est-ce que c'est pas plus profond que ça, le fait qu'aujourd'hui, il y a des générations de jeunes qui disent je ne ferai pas d'enfant?
Oui, ou j'en ferai un. Et voilà. Renouvellement des générations au minimum. Et puis. On va quand même dire une chose, 1850, il y avait 1,4 milliard d'êtres humains sur Terre. 1950, un siècle plus tard, 2,5 milliards. Et alors, un siècle plus tard, en 2050, on prévoit d'être 9,7 milliards sur Terre. Donc je crains,
et après, ça va baisser.
Que nous n'exercions une pression sur les ressources naturelles qui soit un petit peu excessive.
Donc,
au regard de nos modes de production et de nos modes de consommation. Si on change nos modes de production et de consommation, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Mais il va peut-être falloir un peu ralentir, même si on prévoit effectivement de toute façon un ralentissement. La Chine, là, est dans un ralentissement qui semble durable. Il faut quand même savoir une chose.
Depuis la première fois, depuis 1960, la population chinoise décline.
70% de la population mondiale vit dans des pays où les ressources naturelles sont limitées. C'était 57% en 1980. Et vous savez quoi? La France, comme l'Allemagne et le Japon, fait partie de ces pays et de ces populations dans lesquelles on vit avec des ressources naturelles limitées. Alors évidemment, en France, c'est pas très grave parce qu'on a les ressources externes qu'on achète pour pallier justement au déficit de biocapacité. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on a une problématique qui est globale, qui est mondiale, qui est la pression démographique sur les ressources naturelles. Alors je sais, l'homme et Homo sapiens, c'est tellement un génie qu'il est toujours capable de trouver des solutions de substitution pour se sortir de la panade dans laquelle il s'est mise. Seulement là, depuis 1850, la panade, elle va en s'accélérant du fait précisément des mauvaises technologies qui obèrent en réalité la survie à la fois de la biodiversité et des générations futures. Donc à un moment donné, cette prise de conscience, elle a lieu en particulier chez les nouvelles générations qui se disent, est-ce qu'on va continuer à surpeupler la Terre ? Alors vous allez me dire, oui, mais la France, on en a besoin pour payer les retraites. Payer les retraites, c'est demain. Est-ce qu'on peut pas regarder un petit peu plus loin ?
Excuse-moi, Barbara,
parce que si vous voulez, bien entendu, hein, vous inquiétez pas pour vos retraites, mais je pense que la retraite de vos enfants et de vos petits-enfants, elles existent même plus à cause de la catastrophe écologique.
Excuse-moi, Barbara, je vais te dire, je pense pas que les gens pensent, pour ne pas faire des enfants, à quel est l'indice de retraite qu'ils vont avoir. Moi, je pense que les gens, quand ils veulent pas faire d'enfants, c'est juste que quand ils allument la télé, ils voient que des mauvaises nouvelles. Ils voient les journaux, ils voient que des mauvaises nouvelles. Ils voient comme quoi l'électricité, le gaz, le carburant, la nourriture, l'insécurité, le dérèglement climatique.
Enfin, laisse-moi
juste finir.
C'est pas encourageant, Barbara.
Un discours anxiogène. C'est pas encourageant. Que t'as le Covid, les maladies, les trucs, le logement, il y a pas de trucs. Enfin, t'as pas envie de faire subir ça à tes gamins, quoi. T'as pas envie de faire subir ça à tes enfants. T'as pas envie de faire subir ça à tes enfants.
Aujourd'hui, qu'il y a 100 ans, pardon.
Et je vais te dire une chose.
Pour nous.
C'est que tout est tellement devenu cher. Moi, mon gamin, il a 7 ans. Le prix, est-ce que vous avez vu, c'était il y a 20 jours, je crois, 25 jours de ça. Je suis parti avec un copain à moi faire des courses dans un grand supermarché.
Il y a longtemps que t'en avais pas fait?
Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, moi. Et je suis parti, on est parti ensemble, voilà. Est-ce que vous avez vu le prix des couches, le paquet de couches d'une marque connue par 50? Mais c'est impressionnant. Ça a dû prendre, 50%, oui, 7
ça,
ans.
C'est ponctuel. Ça.
Mais 50%.
Enfin, une alternative aux couches
après,
de marque comme
ça. Oui, d'accord. On va faire comme Robinson Crusoe, on va mettre des trucs. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est dans la vie de Barbara Lefebvre.
Mais tu sais ce que j'entendais ce matin?
Mais à un moment, quand tu te dis qu'il y a tout qui a explosé, que les salaires ne sont pas, tu vas ramener des gosses avec toi, tu vas faire des gosses, tu vas les mettre dans un monde où tout part en vrille.
Oui, mais enfin,
ça fait pas très envie.
Procréer. Le monde était plus dur il y a 100 ans déjà.
Mais bien sûr,
on ne posait pas la question, on faisait des enfants.
Sur ça,
aujourd'hui, effectivement, on est très tourné sur nous-mêmes, sur notre confort personnel. Moi, je pense pas du tout à ce que tu viens de dire. Je pense que on est devenu quand même très égoïste, très individualiste, et on se dit quand même un enfant, ça va être gênant parce qu'il va falloir que je prenne. Ah, comment je vais faire? Donc, je vais partir un peu moins en vacances. Ah, mais pour le logement, comment je vais faire? Je pense qu'on regarde tout à l'aune de son petit bonheur et de son précaré, et un enfant, on se dit oh là là. Je pense qu'il y a quand même
dans une société individualiste,
on a envie de faire moins d'enfants. Et puis deuxièmement, effectivement, le discours anxiogène qu'on
toute
nous sort tous les 4 matins, la planète va mourir, l'idéologie décroissante qu'on entend aussi partout dans les médias, l'anxiété.
On est en train de créer des générations
d'anxiété. On parle de éco-anxiété maintenant, vous imaginez? Donc effectivement, je comprends très bien les jeunes générations en disant
attendez, je vais faire les enfants, ils vont mourir demain.
Quand j'entends Barbara nous dire à la fois qu'il faut défendre le système par répartition, mais il faut faire moins d'enfants, alors
Olivier, je ne défends pas le système par répartition parce qu'il ne repose que sur la démographie.
Sinon, on demande aux gens de travailler jusqu'à 100 ans.
Je partage totalement ton analyse, ton excellente analyse, mon cher Olivier. Non, mais c'est vrai, je rigole pas, ça fait pas rire d'ailleurs, c'est pas un sujet qui est marrant, mais ce matin, j'écoutais chez Apolline, à RMC, deux jeunes qui ont été interviewés, deux jeunes. Priorité, c'est stabiliser mon boulot et les activités.
Elle leur a parlé,
mais les enfants, c'est pas le problème.
Non.
Les deux interviews, c'était ça.
Donc parce qu'on est devenu égoïste,
moi je pense qu'on est juste devenu un peu plus réaliste entre l'égoïsme et le réalisme.
J'ai pas l'impression que ma grand-mère ou mes grands-parents étaient égoïstes.
Attendez, je voudrais qu'on écoute Nathan. Il a 22 ans, il nous appelle des Landes.
Juste un point, excusez juste les femmes de contrôler aussi leur fécondité. Excusez-nous de pas vouloir faire autant d'enfants que nos arrière-grand-mères quand il y avait pas de moyens de contraception et qu'on devait supporter la décision du mari ou du père, donc excusez-nous quand même aussi. Non mais ça joue, parce que la chute de la démographie, vous la regardez, c'est après 1970, c'est-à-dire la légalisation de la contraception et de l'IVG, vous avez une chute phénoménale de l'indice de fécondité, et excusez-moi, les femmes ont encore le droit de faire des enfants quand elles en ont envie, c'est un droit chèrement acquis, donc merci quand même.
On va pas leur obliger non plus, Nathan.
Quand tu fais ton premier enfant
à 31 ans, c'est sûr que t'en fais moins.
Ouais. Allez, Nathan, vous avez 22 ans.
Oui.
Est-ce que vous êtes dans l'optique de faire des enfants, mon cher Nathan?
Alors, écoutez, j'ai déjà une fille de 4 mois.
Bravo, félicitations.
Merci
beaucoup. Bravo, Nathan.
Et continuez.
Et oui, je continuais. Je voulais en avoir au moins un deuxième. Bon, ça, c'est un choix, parce que je ne vois pas ma fille être fille unique, mais moi, je pense. Alors, je suis d'accord avec plein de choses sur la société, l'anxiété que ça génère et tout ça. Après, moi, je suis parti, peut-être un peu trop optimiste, mais je suis partisan de me dire que. Bah, si on fait pas d'enfants, on lègue pas la bonne parole à une nouvelle génération qui, elle, pourra peut-être changer les choses. Si on fait pas d'enfants, on va juste laisser les mêmes personnes qui ont déjà creusé le trou continuer à creuser le trou, alors que je le vois, moi qui ai travaillé dans des écoles, et puis moi qui suis jeune, j'ai toujours été élevé dans le tri sélectif, le respect de la planète, le respect des animaux. Donc je me dis que bah, je vais éduquer mes enfants comme ça, et que mes enfants, bah, plus tard, ils bosseront là-dessus, et que ça fera peut-être en sorte que ça s'arrange. Après, moi, je pense que ce qui bloque aussi, et malheureusement, c'est une réalité en France, c'est que pour ma part, on était deux à travailler. Ma compagne a dû mettre de côté sa carrière professionnelle parce qu'il n'y a pas de crèche.
Eh oui.
Le peu de place qu'il y a en crèche, nous, pour notre part, on travaillait tous les deux dans la grande distribution. Pour 4 samedis par mois, ça nous coûtait 1 300 euros.
Bon. Ah oui.
Voilà. Donc autant mal. Vous dire qu'on touchait plus à rester
à la maison,
que de lâcher un salaire entier juste pour la garder 4 samedis par mois. Et puis après, il y a tous les organismes. Moi, pour ma part, j'ai été en congé paternité il y a déjà un mois et demi. Alors, j'ai été en congé paternité pendant 11 jours de suite. Donc vous imaginez, c'est à peu près 500 euros de moins sur ma paye. Et bien, quand j'appelle la CAF, on me dit, vous serez payé dans un délai de 6 à 9 mois. C'est-à-dire que pendant 6 à 9 mois, je ne sais pas quand est-ce que je vais toucher le remboursement de ces heures de travail que je n'ai pas eues. Et en fait, c'est ça, c'est que les organismes derrière, ils ne suivent pas. Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de mettre de côté ou qui ne sont pas deux, enfin nous dans notre situation, du coup, je suis le seul à travailler. Mais j'ai quand même voulu prendre mon congé paternité parce que c'est important pour moi d'être auprès de ma fille pour ses premières années. Mais d'un côté, je m'ampute de 600 euros que je reverrai.
Je comprends.
Voilà. Donc financièrement, en fait, c'est aussi le côté des organismes qui ne suivent pas.
Mmh. Et donc ça veut dire que pour des jeunes comme vous, ce que vous attendez déjà, c'est une véritable incitation et un soutien financier. Quand on a un enfant aujourd'hui, avoir un enfant, c'est un coût. Voilà, c'est
oui,
quelque
c'est
chose
ça,
aussi.
Mais, oui, mais en plus, avec tout qui augmente, moi je vois mes pleins de courses depuis que j'ai la petite, c'est des cotons, c'est des pommades, c'est des couches. Mais
c'est pour ça que faire un enfant, c'est une sorte de sacrifice.
Faire
un enfant, c'est une
société de la
c'est un budget.
C'est un budget, c'est-à-dire qu'on prend, on prend la décision d'avoir un peu moins pour soi et un peu plus pour son enfant. Moi, je pense que dans la société actuelle, il y a quand même une génération. Alors, bien sûr, il y a le travail des femmes, etc. Mais il y a une génération quand même qui, un peu égoïste, qui se dit, non, moi, je préfère garder tout pour moi.
Ouais. Disons que je pense pas que ce soit de l'égoïsme.
Je préfère de
Je pense que ça vient du fait du climat ambiant que tout augmente, donc on a déjà beaucoup moins pour nous. Moi, je le vois les jeunes. Enfin, moi, je serai seul.
Ça a commencé à baisser avant l'inflation.
On a entendu ce que nous dit Nathan. Il fait simplement ses calculs.
Et quand Barbara dit
un vrai soutien des pouvoirs publics, parce que la politique de natalité, c'est l'affaire des pouvoirs
publics. Et Barbara dit aussi une chose qui, moi, je trouve ça complètement qui n'est pas logique. C'est quand même dit, oui, c'est quand même les femmes qui décident à avoir des enfants. Et quand est-ce qu'elle va avoir des enfants? Personne n'a dit le contraire, Barbara. Qu'on fait un enfant à deux, quoi. On le fait pas tout seul.
Merci.
Enfin, je sais pas.
Oui, tu en général, un homme et une femme aussi.
Que tu me dises, oui, mais c'est la femme qui doit décider de son corps et tout ça. Oui, mais je pense
simplement de te dire, c'est que la chute de la natalité, la baisse de la fécondité,
donc le vieillissement de la France,
on l'observe. Dès que les femmes sont éduquées, et c'est heureux, dès que les femmes ont accès aux moyens de gérer leur fécondité, il y a une baisse de la démographique. Ça s'observe partout d'ailleurs, même en Afrique aussi ça s'observe. Plus les femmes sont éduquées, moins elles font d'enfants. Ça n'empêchera pas l'Afrique de multiplier par deux sa population dans les 20 ans qui viennent. Mais c'est un progrès que les femmes puissent contrôler leur fécondité.
Oui, mais Barbara,
mais bien entendu, en général,
oui, mais Barbara, fait le système, notre système est fait avec une démographie assez forte. Et la France était un peu une exception en Europe. Oui. On gardait un taux de fécondité. D'ailleurs, je crois qu'on a encore le meilleur taux de fécondité en Europe, mais c'est pas suffisant parce qu'on ne renouvelle pas génération. On peut pas à la fois se battre pour un système par répartition.
Non, mais attends.
Et dire, c'est, oh, mais c'est comme ça, on fait rien.
Essaye de pas ramener à chaque fois sa réforme des retraites. Mais je vais te dire, si déjà,
terminer ma phrase, Barbara, on n'entend que toi. Je termine mon raisonnement. Tout est lié. Nous avons mis en place un système économique où on devait faire suffisamment d'enfants. On n'en fait pas suffisamment. Le système par répartition va mourir. Voilà, c'est tout.
Il faut le dire en français. Le chômage et les cotisations. J'y peux rien s'il y a du chômage et j'y peux rien si les cotisations sont ce qu'elles sont.
Le chômage n'a jamais été aussi bas en France.
Oui, mais si on a moins de jeunes, ça veut dire moins d'entrants aussi sur le marché du travail. Donc ce sera un problème, on va pas pouvoir continuellement augmenter les cotisations.
Ou alors ça sera, ou alors on fera venir une population immigrée. Mais